Chapitre 48. Toute la famille espérait recevoir le lendemain une lettre de Monsieur Bennett, mais leur espoir fut déçu car la poste vint et n'apporta pas un seul mot de lui. Ses enfants savaient que d'ordinaire il était un correspondant fort négligent. Toutefois, elles avaient espéré que, dans une circonstance aussi grave, il mettrait un peu plus d'exactitude. Elles furent donc forcées d'en conclure qu'il n'avait aucune bonne nouvelle à leur donner, mais encore aurait-elle été fort aise d'en avoir l'assurance. M. Gardiner n'avait attendu que l'arrivée du courrier pour se mettre en route. Quand il fut parti, la famille Bennett trouva quelques consolations à songer que les moindres nouvelles sur l'affaire qui les intéressait leur seraient du moins exactement communiquées. Il promit en partant d'engager M. Bennett à retourner à Longbourn aussitôt que possible, promesse fort agréable pour Mme Bennett, qui regardait ce retour comme le seul expédient qui pût empêcher son mari d'être tué en duel. Mme Gardiner et ses enfants devaient rester encore quelques jours dans Herefordshire, cette première pensant que sa présence pouvait être utile à ses nièces. Elle partageait avec elles les soins sans nombre qu'exigeait Mme Bennett, et sa société leur était une grande consolation dans leurs moments de loisir. L'autre tante les visitait aussi très fréquemment, et toujours, disait-elle, avec le désir de les consoler, quoique ses discours fussent bien peu propres à cela, car jamais elle ne venait sans leur raconter quelque preuve nouvelle de la prodigalité de la mauvaise conduite de Wickham, et par conséquent elle les laissait d'ordinaire plus tristes, plus abattus qu'elle ne les avait trouvés. Tout Meryton semblait maintenant s'efforcer de noircir la réputation de l'homme que, 3 mois auparavant, on avait presque mis au rang des demi-dieux. On assura qu'il devait à tous les marchands de cette ville, et selon le bruit de la ville, il y avait à peine une fille d'artisan dans le voisinage qui n'eût été trompée par lui. Chacun déclarait qu'il était l'homme le plus méprisable, le plus dépravé, et beaucoup de gens commençaient même à trouver qu'il s'était toujours défié de son air affable. Élisabeth, bien qu'elle n'ajoutât que peu de foi à la plupart de ses rapports, en crut assez cependant pour être plus persuadée que jamais du déshonneur de sa malheureuse sœur. Et même Hélène, qui en croyait bien moins encore, commença presque à perdre tout espoir, d'autant plus que 2 semaines étaient presque écoulées depuis leur fuite. Et si vraiment ils eussent été en Écosse, comme toujours elle l'avait espéré, on aurait pu maintenant avoir reçu de leurs nouvelles. M. Gardiner quitta Longbourn le dimanche. Et le mardi suivant, sa femme reçut une lettre de lui qui leur disait qu'à son arrivée, ayant sur le champ été retrouver son frère, il lui avait persuadé de venir avec lui dans la rue de Grace Church, que M. Bennett s'était rendu à Epsom et à Clapham avant son arrivée, mais en vain, que toutes ses recherches avaient été infructueuses et qu'il était maintenant décidé à visiter tous les hôtels garnis de Londres, car M. Bennett pensait qu'il était fort probable qu'à leur arrivée dans cette ville, ils eussent descendu à l'auberge avant de se procurer un appartement. M. Gardiner ne paraissait attendre aucun succès de cette démarche, mais son frère semblant en espérer beaucoup, il voulait le satisfaire. Il ajoutait aussi que M. Bennett était fort décidé à ne point encore quitter Londres et promettait d'écrire dans peu de jours. À cette lettre, il y avait aussi un post-scriptum, et tel en était le contenu. J'ai écrit au colonel Forster pour le prier de s'informer sur les intimes de Wickham, s'il lui connaissait quelques parents ou amis qui pourraient nous aider à découvrir dans quel quartier de la ville il s'est caché. S'il y avait quelqu'un auquel on pût s'adresser avec l'espoir d'apprendre quelque chose à ce sujet, cela nous serait fort utile, car jusqu'à présent nous n'avons rien qui puisse nous servir de guide. Je ne doute nullement que le colonel Forster ne fasse tout ce qui dépendra de lui pour nous satisfaire sur ce point. Mais il me vient une idée, peut-être que Lizzie pourra nous dire mieux que personne s'il a encore quelques parents vivants, et quel est le lieu de leur résidence. Élisabeth comprit bien de quelle source provenait la confiance que son oncle semblait avoir dans ses lumières. Mais elle ne put y répondre par aucune information satisfaisante. Jamais elle n'avait ouï parler d'aucun des parents de Wickham, hors son père et sa mère, qui tous deux étaient morts depuis plusieurs années. Il était cependant possible que quelques-uns de ses frères d'armes en sussent plus qu'elle sur ce sujet. Aussi attendit-on avec la plus vive impatience une seconde lettre de M. Gardiner. Chaque jour à Longbourn était maintenant un jour d'inquiétude et de tourment. L'heure de la poste, surtout, voyait accroître l'anxiété de toute la famille, et chaque matin, on s'attendait à recevoir quelque importante nouvelle. Mais avant qu'on entendît de nouveau parler de M. Gardiner, une lettre d'un tout autre genre, adressée à M. Bennett, leur fut apportée. Elle était de M. Collins. Hélène avait reçu ordre de son père d'ouvrir les lettres qui viendraient pour lui en son absence. Elle la décacheta donc, et Élisabeth, sachant combien celle de son cousin était extraordinaire, voulut la lire aussi. Voici quel en était le contenu. « Monsieur et ami, par mon état et plus encore par ma parenté avec vous, je me trouve requis de venir vous offrir mon compliment de condoléances au sujet de l'affreux malheur qui pèse en ce moment sur vous et que j'ai appris hier par une lettre d'Hertfordshire. » Soyez assuré, monsieur, que Madame Collins et moi partageons sincèrement votre douleur, celle de votre respectable famille. Cette douleur doit être bien amère, vraiment, puisqu'elle provient d'une source que le temps ne saurait jamais tarir. Aucun raisonnement capable d'adoucir de si justes, de si cuisants regrets ne sera par moi épargné. Le but de cette lettre est de chercher à vous offrir quelques consolations dans une épreuve si pénible pour un cœur paternel. La mort de votre fille eût été un bonheur comparé à ce déplorable événement, et qui doit d'autant plus vous affliger qu'il y a lieu de croire, comme me le disait ma chère Charlotte, que la conduite licencieuse de votre fille peut en quelque sorte être attribuée à cette extrême indulgence qu'on a toujours eue pour elle. Mais en même temps, pour votre consolation, pour celle de Madame Bennett, il m'est doux de pouvoir vous dire que, quant à moi, je suis fort enclin à penser que son cœur était naturellement dépravé, ou elle n'aurait pu, dans un âge aussi tendre, se rendre coupable d'un pareil forfait. Enfin, peu importe la cause du mal, cela ne change rien à votre position. De toute manière, vous êtes fort à plaindre. Dans ce sentiment, je me vois appuyé non seulement par Madame Collins, mais encore par Lady Catherine et sa fille, à qui j'ai raconté cette affaire. Elles partagent avec moi la crainte que le déshonneur d'une de vos filles ne nuise essentiellement à toutes les autres. Car, comme le remarquait avec bonté Lady Catherine, qui voudra s'allier à une semblable famille ? Et cette considération me fait réfléchir avec une nouvelle satisfaction à un certain événement du mois de novembre dernier, car s'il n'avait point eu lieu, je me trouverais aujourd'hui enveloppé dans votre cruelle disgrâce. Laissez-moi donc vous conseiller, monsieur et ami, de ne point vous abandonner trop vivement à votre chagrin. Chassez loin de vous tout souvenir d'une enfant si indigne de votre tendresse, et laissez-la seule recueillir les fruits de sa coupable conduite. Je suis monsieur, etc. Monsieur Gardiner attendit d'avoir reçu la réponse du colonel Forster avant de leur écrire, et alors même il n'avait rien d'agréable à leur apprendre. Aucun des officiers du régiment n'avait ouï dire que Wickham eut quelques parents avec lesquels il fut en relation. On croyait même que ses plus proches étaient tous morts depuis longtemps. Ses anciennes liaisons avaient été, il est vrai, fort nombreuses, mais depuis son entrée dans la milice, il semblait les avoir entièrement perdues de vue. On ne connaissait donc personne qui pût donner aucune nouvelle de lui. Et le désordre de ses propres affaires était encore un plus puissant motif que la crainte même d'être découvert par les parents de Lydia pour sceller le lieu de sa retraite, car le bruit venait de se répandre qu'il avait laissé des dettes d'honneur pour une somme très considérable. Le colonel Forster croyait que 1000 livres sterling ne suffiraient pas pour payer ses dettes à Brighton. Il devait beaucoup dans la ville, mais ses dettes du jeu étaient bien plus énormes encore. Monsieur Gardener ne chercha pas à cacher ces tristes détails à la famille de Longbourn. Hélène les écouta avec horreur. « Un joueur ! » s'écria-t-elle. « Cela passe tout en tente. Je n'en avais nulle idée. » Monsieur Gardener ajoutait qu'elle pouvait attendre leur père le jour suivant, qui était le samedi. Le peu de succès de ses démarches l'ayant absolument découragé, il s'était enfin rendu aux instances que lui faisait son beau-frère de retourner dans sa famille et de lui laisser faire ce que l'occasion, le hasard, lui suggérerait pour continuer leur poursuite. Lorsque Madame Bennet apprit ce retour, elle n'en parut pas aussi satisfaite que ses enfants l'auraient imaginé, considérant combien ses craintes pour la vie de son mari avaient été extrêmes. « Comment il revient, et sans ma pauvre Lydia ? » s'écria-t-elle. « Se peut-il qu'il quitte Londres sans les avoir trouvés ? Et qui donc se battra avec Wickham et le forcera à épouser ma fille, s'il ne le fait ?» Comme Madame Gardener commençait à désirer être chez elle, il fut décidé qu'elle et ses enfants partiraient pour Londres le même jour que M. Bennet devait quitter cette ville. La voiture les conduisit donc à la poste voisine et ramena M. Bennet à Longbourn. Madame Gardener quitta Herefordshire sans avoir pu satisfaire sa curiosité ou éclaircir ses soupçons sur la liaison d'Elisabeth avec le propriétaire de Pemberley. Son nom n'avait jamais été volontairement prononcé devant eux par leur nièce, et l'idée qu'avait eue Madame Gardener que sa nièce ne tarderait point à recevoir une lettre de lui, car Elisabeth n'en avait reçu aucune depuis son retour, qui pût venir de Pemberley. Le malheur qui affligeait toute la famille rendait la tristesse d'Elisabeth si naturelle qu'on n'en pouvait raisonnablement tirer aucune conjecture. Mais elle-même, qui à cette heure commençait à mieux connaître son propre cœur, était parfaitement convaincue que si elle n'avait point connu M. Darcy, elle aurait pu supporter avec plus de courage l'idée du déshonneur de Lydia. Lorsque M. Bennet arriva, il paraissait aussi calme, aussi froid qu'à son ordinaire. Il ne dit pas un mot de plus qu'il n'avait coutume de dire, ne fit point mention de l'affaire qui l'avait obligé de faire ce voyage, et quelques heures se passèrent avant que ses filles eussent le courage de lui en parler. Ce ne fut que dans la soirée, lorsqu'il les joignit pour le thé, qu'Elisabeth se hasarda à aborder ce sujet, et alors, lui ayant brièvement exprimé son désir si sincère de lui pouvoir offrir quelque consolation, elle reçut de lui la réponse suivante. « Ne parlons point de ce malheur. Qui doit en souffrir si ce n'est moi ? Ce malheur est mon ouvrage, heureux encore si j'en portais seul la peine. » « Il ne faut pas vous faire de trop sévères reproches, » reprit Elisabeth. « Oui, vraiment, un tel avis m'est fort utile. L'homme est naturellement si enclin à se juger sévèrement. Non, Lydie, laissez-moi au moins une fois dans ma vie sentir combien j'ai été coupable. Je ne crains pas que cette pensée me fasse une trop vive impression. Elle passera assez tôt. » Les croyez-vous réellement à Londres ? Où pourrait-il ailleurs demeurer si caché ? Et Lydia a toujours désiré d'aller à Londres, dit Kitty. Son désir est donc accompli, répondit sèchement son père, et sa résidence en cette ville sera probablement de quelque durée. Après un moment de silence, il continua. Lydie, je sens trop tard la justesse de l'avis que vous me donnâtes au mois de mai dernier, et qui, rapporté aux circonstances présentes, montre quelque pénétration. Ils furent ici interrompus par Mademoiselle Bennet, qui venait chercher le thé de sa mère. « Voilà vraiment une parade, s'écria-t-il, qui nous fait beaucoup de bien. Cela donne un certain relief à nos malheurs. Un autre jour, je pourrais suivre cet exemple. Je resterai dans mon cabinet en robe de chambre et en bonnet de nuit, afin de donner autant d'embarras que possible. » Ou peut-être pourrais-je attendre à le faire que Kitty ait à son tour pris la fuite. « Je ne compte pas m'enfuir, papa, » dit Kitty avec aigreur. « Si j'allais jamais à Brighton, je me conduirais mieux que Lydia. »« Vous aller à Brighton ? Dieu m'en garde ! Je ne vous permettrai même pas d'en approcher. »« Non, non, Kitty, j'ai enfin appris à être prudent, et vous en sentirez les effets. Aucun officier ne doit désormais entrer dans cette maison, ni même passer par le village. Tous bals ou assemblées vous seront interdits, à moins que vous ne dansiez auprès d'une de vos sœurs. Et jamais vous ne sortirez de la maison que lorsque vous aurez pu prouver que vous vous êtes occupé pendant au moins 10 minutes de quelque chose d'utile. » Kitty, prenant toutes ces menaces au pied de la lettre, se mit à pleurer. « Allons, allons, dit-il, ne vous chagrinez pas trop cependant. Si d'ici à 10 années vous vous conduisez en fille sage et raisonnable, je pourrai bien alors vous mener voir une revue.